Cette parole qui vient d'être chantée dans le cœur d'homme que nous venons d'entendre, eh bien nous l'écoutons telle qu'elle nous est adressée dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 9, ce texte sur lequel Stéphane a déjà lu hier en méditant aussi sur un texte de Paul aux Corinthiens. Ce texte de 1 Pierre qui est un peu le fil conducteur de notre convention. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance se garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Joyeux dans l'épreuve. Comme le soulignait tout à l'heure Samuel, c'est deux mots qui vont pas forcément bien ensemble. C'est presque une provocation, le titre de cette convention. Comment envisager qu'on puisse ressentir de la joie, cette émotion que l'on éprouve en voyant combler un désir profond, alors qu'on est confronté à l'épreuve, que ce soit la nôtre ou celle de l'autre. L'autre qui, sous nos yeux, se débat encore peut-être, mais ne peut plus vraiment se battre, accablé qu'il est par le mal. Non, on ne peut pas se réjouir seul. On ne peut pas être joyeux devant les larmes de l'autre. Comment parler de joie dans l'épreuve ? En pensant à ces villageois du Haut Atlas marocain ou dans l'ouest de l'Afghanistan, qui ont perdu la plupart des membres de leur famille, tous leurs biens dans les récents séismes. Ou à ces Libyens dont la cité a été ravagée en septembre par une inondation catastrophique. Ou à ces Arméniens du Haut-Karabakh, chassés de leurs terres par l'épuration ethnique. Quel sens peut avoir le verbe « se réjouir » pour ces habitants d'Haïti, soumis à la loi, à la violence des gangs, tout-puissants face à un État devenu presque inexistant ? Oserais-je dire plus près de nous à ce malade incurable et à bout de force ou à ses proches de se réjouir dans l'épreuve ou à ce migrant, à ce demandeur d'asile qui a affronté 1000 dangers, consenti tant de sacrifices pour se voir finalement arrêté et refoulé aux frontières de notre continent ou encore dans l'actualité la plus brûlante à ces Israéliens dont la famille a été massacrée ou kidnappée il y a 8 jours par les terroristes du Hamas, sans oublier les civils de Gaza qui, en ce moment même, sous les bombes, font les frais de la contre-offensive. Alors, nous sentons bien que essayer de motiver cet appel à la joie en précisant, comme le fait Pierre, que la tristesse et la souffrance de l'épreuve ne sont que pour un temps, ce que nous croyons, que le matin de l'allégresse suivra la nuit des larmes, ce serait justifié peut-être, ce serait prêter le flanc peut-être à la critique hélas pertinente de la religion comme disait Karl Marx, opium du peuple, évasion de la réalité. Stéphane Zer nous a parlé hier de consolation. Et c'est vrai que cette consolation ne peut être que le don de l'Esprit. Parce que vous savez qu'il y a aussi des consolateurs pénibles, comme le disait Job à ses amis. Oui, votre consolation, elle est pénible. Vos bonnes paroles, elles arrivent vraiment, vraiment au mauvais moment. Et ne nous hâtons pas trop vite de rétorquer que seul un chrétien, une chrétienne, comme l'étaient les destinataires de l'épître de Pierre qui souffraient de persécution, que seul un chrétien, une chrétienne peut comprendre et recevoir cet encouragement à garder la joie dans l'épreuve. Voyez-vous, il y a quelque chose de très important dans ce texte. Pierre n'ordonne pas à ses lecteurs d'être joyeux. Ce qui est très fort et très important, c'est qu'ils constatent leur joie. Vous vous réjouissez. La joie ne peut pas être une joie sur commande. Comme le disait tout à l'heure Samuel, ça ne peut pas être une joie factice, autosuggérée, façon méthode Coué. Le seul verbe à l'impératif dans ce texte de 1 Pierre, c'est louons Dieu, le premier verbe. Béni soit Dieu pour les inconditionnels de la traduction Louis II, mais c'est pareil. Louons Dieu parce qu'il nous donne une espérance au cœur des épreuves, au cœur du présent. Et j'ai bien dit une espérance et pas un espoir. Il faut distinguer ces deux mots. Face à l'épreuve, face à la souffrance, on peut toujours essayer de garder entrouverte la porte de l'espoir. L'espoir d'une intervention de l'ONU pour un pays en proie à une crise sociale ou politique inextricable comme à Haïti. L'espoir d'une arrivée pas trop tardive des secours pour les disparus d'un séisme ou d'une inondation. L'espoir d'un nouveau traitement pour une maladie réputée incurable. L'espoir de voir aboutir un recours pour un demandeur d'asile ou une négociation pour un otage. L'espoir de la réussite de la COP, alors je ne sais plus si c'est la COP 28 ou 29, tellement il y en a eu, pour voir enfin les États prendre les mesures drastiques qu'impose le changement climatique. Mais nous le savons, parfois il n'y a plus aucune raison de garder espoir, plus aucune place pour l'espoir. Parce qu'on a atteint un point de non-retour, le point au-delà duquel le futur se transforme en impasse. Le désespoir gagne alors du terrain, il envahit tout, depuis le slogan punk des années 80, vous savez, « no future », pas de futur. Il ronge tout, il précipite les exclus dans la violence, il précipite les nantis dans le cynisme, et tout le monde ou presque, pour oublier la réalité dans le divertissement abrutissant. Quant à l'espoir, il a fui, vaincu vers le ciel noir, comme l'écrivait un poète. Mais il reste l'espérance dont parle Pierre. On peut même dire qu'il y a vraiment place pour l'espérance que lorsqu'il n'y a plus aucun espoir, à vue humaine, à hauteur d'être humain. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, ne parle pas d'un futur radieux, de lendemain qui chante, à ces chrétiens d'Asie mineure, durement éprouvés dans la dispersion et dans les persécutions du pouvoir romain, pas plus qu'ils ne cherchent à leur faire perdre de vue les difficultés du présent. Il leur parle d'un avenir, de quelque chose qui n'est pas le simple prolongement attendu, possible, envisageable de la situation présente, mais d'une réalité nouvelle qui fait irruption et qui bouscule l'ordre prévisible des choses. Pour distinguer le futur qui meurt en même temps que l'espoir, d'une part, et de l'autre, l'avenir qu'entrevoit l'espérance, il y a un pasteur qui, ici même, le 7 septembre dernier, proposait une image très intéressante, très parlante. Il nous disait, ce pasteur, « Si je n'ai plus qu'un demi-litre de carburant dans le réservoir de ma voiture et qu'il n'y ait pas de station-service à moins de 40 km, le futur, ben c'est la panne sèche. L'avenir, c'est quoi? Parce que je n'ai pas de futur, hein, avec un demi-litre de carburant à 40 km, je ne connais pas de véhicule assez sobre pour me permettre de parcourir la distance. L'avenir, c'est quoi? Ben, l'avenir, c'est quelqu'un qui va s'arrêter, qui va m'emmener dans sa voiture à la station-service pour en ramener un bidon de carburant. Alors, cet exemple m'a fait penser à ces deux disciples qui allaient tristement sur le chemin d'Emmaüs un dimanche soir, vers l'an 33. Ils étaient en panne sèche de joie et d'espoir. Leur espoir était mort avec Jésus, l'avant-veille, au Golgotha. Et vous savez ce qui s'est passé ? Jésus ressuscité les a rejoints, incognito, a réchauffé leur cœur en leur expliquant les Écritures et les a remplis d'une joie définitive en se faisant reconnaître devant eux par le pain rompu et partagé, ce pain que nous allons rompre et partager tout à l'heure. Frères et sœurs, toutes ces réalités de l'actualité que j'ai décrites tout à l'heure, toutes ces crises que j'ai citées, j'ai dû d'ailleurs reprendre mon texte plusieurs fois parce qu'à chaque fois que j'avais ajouté une crise, crac, il y en avait une nouvelle qui se pointait dans l'actualité. Toutes ces crises qui blessent et finissent par tuer l'espoir, elles ont un point commun. Derrière elles s'avance un ennemi bien plus fort que nos optimismes les plus résolus et nos plus raisonnables raisons d'espérer. C'est la mort. Mais cet ennemi-là, il a été vaincu au Golgotha, au moment même où il paraissait être le vainqueur absolu. Victoire manifestée le surlendemain à Jérusalem, attestée par un tombeau vide, au cœur de notre histoire. Au cœur de notre histoire. Un tombeau vide. Et une parole, une attestation, il n'est plus là. Il n'est plus là. Plus rien ne peut nous arracher cette promesse de victoire et de vie. Plus rien, plus aucun futur ou nos futurs ne peut nous priver de cet avenir que Dieu nous ouvre en son Fils Jésus-Christ. Voilà la source de notre joie. Qu'imprime au cœur de nos esprits, de nos pensées, l'Esprit Saint. Même si cet héritage de Pierre, dont parle Pierre, pardon, c'est bien promis. Finalement, Pierre dit quelque part, si je devais prendre le langage des notaires, vous n'en avez que la nue propriété. Vous n'en avez pas encore l'usufruit total. Il est nôtre, il nous est promis, et Dieu tient toujours ses promesses. La joie dont parle Pierre, finalement, c'est celle des béatitudes. Une joie qui vit et grandit de ce que l'espérance lui donne à discerner. Et je prendrai un autre exemple que la panne d'essence, pour rendre compte de ce qu'a accompli le Christ et qui précisément nous ouvre l'avenir. Je l'emprunterai à une de mes passions coupables, le jeu d'échecs, qui est à bien des égards une image de la vie et de ses défis, car si ses règles sont simples, rien n'est plus complexe qu'une partie d'échecs. Je devais un jour résoudre un problème d'échecs avec mon entraîneur dans mon club d'Agen. Il s'agissait de promouvoir, alors je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, hein, rassurez-vous, hein. Il s'agissait de promouvoir un de mes pions jusqu'à la dernière rangée pour le transformer en dame. C'est la pièce la plus puissante de l'échiquier, la dame. Et si j'arrivais à mener ce pion jusqu'à la dernière rangée, le problème était résolu, j'avais gagné. Mais ce petit pion était sans défense, sur une colonne contrôlée par une tour adverse qui allait le manger. Comment sauver mon petit pion ? Devant mon embarras, l'entraîneur me dit, je cite, « Cherche le coup le plus idiot. » Ça, c'était à ma portée. Je n'avais pas vu qu'en sacrifiant ma propre tour, je pouvais dévier la tour adverse menaçante et permettre à mon pion d'atteindre la dernière rangée et devenir dame. Ce sacrifice, on parle de sacrifice de pièces, c'était le coup gagnant. Eh bien, dans sa grande partie d'échecs contre le mal, contre le péché et sa conséquence, la mort, ce coup inattendu, ce coup insensé, ce coup idiot aux yeux des hommes, ce sacrifice fou mais gagnant, Dieu l'a joué au Golgotha. Et c'est fait. Il y a une règle aux échecs qui est très embêtante mais qui est implacable. Quand vous avez joué un coup, vous ne pouvez pas le reprendre. Même si vous dites « Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire », trop tard, c'est fait. Quand c'est joué, c'est joué. Dieu a joué ce coup-là. si j'ose dire, et il ne reviendra pas dessus. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix ? Tout est accompli. Et c'est ce coup qui nous rend gagnants, par la foi de Jésus-Christ et par la foi en lui. Nous, petits pions, promis au néant, à la mort, en avons été délivrés et avons reçu le titre d'enfant de Dieu. Quelle promotion ! On peut toujours continuer aux échecs quand la partie est déjà perdue et la fin proche. Avec même l'énergie du désespoir, et c'est bien pour cela que le diable, l'adversaire, se déchaîne aujourd'hui comme jamais. Mais il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Nous voici donc devant un choix, frères et sœurs. Laisser en ce monde la violence, l'injustice, l'individualisme, le consumérisme, le fanatisme et tous les ismes que vous voudrez détruire ce monde que Dieu aime en nous réfugiant dans une sorte de bunker spirituel, ou alors devenir des témoins actifs à notre mesure, avec les forces qui nous sont données, mais dans la force de l'esprit, dans la douce force de l'esprit d'un Dieu qui a aimé ce monde et a voulu le renouveler, le transfigurer de fond en comble, en se donnant lui-même, par le sacrifice de la croix, par le don de son Fils. Un Dieu qui a le dernier mot. Voilà ce qui a inspiré à Martin Luther son mot célèbre. Si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, aujourd'hui, je planterai un pommier. À nous de décider si c'est peine perdue, ou si cela a du sens de soutenir ceux qui mettent en acte leur foi et leur amour au cœur des souffrances et des misères, que ce soit celles d'Haïti, du Maroc, d'Arménie, d'ailleurs ou tout près de nous. À nous de décider si c'est peine perdue ou si cela a du sens que de s'engager pour secourir, pour consoler tous ceux qui souffrent de catastrophes, de deuil, de violence, de maladies ou de solitude, en témoignant ainsi de la compassion du Seigneur, en transmettant cette consolation dont Stéphane Zer nous parlait hier, cette consolation qui vient de l'Esprit-Saint. À nous de décider si c'est peine perdue ou si cela a du sens que de se battre pour que l'étranger soit toujours le bienvenu dans la patrie des droits de l'homme, ou réputait-elle, cet homme que Dieu a créé à son image. À nous de décider si c'est peine perdue ou si cela a du sens que de prendre soin de cette création malade, de nos excès, de nos appétits insatiables, création dont Dieu nous confie la gestion. À nous de décider si c'est peine perdue ou si cela a du sens que de dire à notre prochain, pour toi aussi, en Jésus-Christ, il y a une espérance. Cherche-la et tu te réjouiras. Cherche-la. Et tu vivras. Amen.